Une fois, je conduisais sur une aire d'autoroute et il y avait un autostoppeur là. Il tenait un panneau indiquant où il voulait aller et cela disait la lune. Alors je l'ai pris et il s'est assis dans mon van et j'ai dit « Allez sur la lune, hein ?» Et il a ri et j'ai ri et je lui ai parlé de Jésus. Eh bien, il était de passage. Il ne faisait que passer. Et je veux simplement vous dire que je ne suis pas en route pour la lune, mais que je suis en route pour le paradis. Et ce monde n'est pas ma maison. Je vais en parler. Vous allez aimer. Bonjour, je suis Bélès Conley. Dieu vous voit. Il vous aime. Et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. Très bien, je veux vous lire quelques-unes des paroles du roi David dans le psaume 119. Il sera sur les écrans. Il a dit ceci dans les versets 18 et 19 de TLB. « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Je suis de passage sur la terre. » Cela signifie un étranger, un résident temporaire, quelqu'un qui ne fait que passer. Mon Dieu, je ne suis ici que pour un petit moment et j'ai besoin d'un guide puisque je ne suis qu'un étranger. J'ai besoin d'une carte, j'ai besoin d'instructions. Et il l'a dit très clairement, « Je vais aller à ta parole, c'est ma carte, c'est ma feuille de route, c'est mon guide. » Ainsi, nous allons chercher l'orientation de la parole de Dieu pour bien vivre en tant que résident temporaire et étranger sur cette terre. Il y a beaucoup de choses dont nous pourrions parler, mais en raison des contraintes de temps, nous n'allons nous concentrer que sur quelques-unes. La première est la suivante. Puisque nous ne sommes que des résidents temporaires et des étrangers, nous devons nous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. C'est en fait une citation directe de la Bible, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. 1 Pierre chapitre 2 verset 11 commence ainsi. Bien-aimés, je vous encourage. Tout le monde dit « j'encourage ». Bien. Cela nous démontre que ce qu'il est sur le point d'aborder ici est important. Il ne dit pas « Écoutez, je suggère, et peut-être vous devriez y réfléchir ». Il dit « Regardez, je vous en supplie, je vous encourage ». Très bien. Qu'est-ce qu'il encourage? Bien-aimé, je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants ou parmi les non-sauvés afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Cher ami, si l'ennemi réussit à nous tenter par notre nature charnelle pour s'emparer de nos pensées ou de notre volonté, notre conduite en sera affectée et cela ternira notre témoignage pour le Christ. Vous voyez, ces deux versets dans 1 Pierre 2 sont liés. Je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger. Vous n'êtes ici que pour un petit moment. Abstenez-vous des désirs charnels. Il mène une campagne, une guerre pour capturer votre âme. Et puis il a dit que votre conduite soit bonne. Ce qui se passe dans votre âme affecte votre conduite. Et si l'ennemi réussit à capturer notre âme, cela affectera notre conduite. Et lorsque les gens du monde parleront de nous comme si nous étions méchants, eh bien, ils auront raison, car notre conduite le montrera en ceci, qu'elle ne glorifiera pas Dieu le jour où il interviendra. En d'autres termes, cela affecte notre témoignage pour le Christ. Si notre conduite est mauvaise, si notre pensée est mauvaise, si notre âme a été capturée, alors notre conduite va être mauvaise, et cela affecte finalement notre témoignage. Et cela affecte la chose que Dieu chérit le plus, les précieuses âmes qui viennent dans sa famille. Les désirs charnels font référence à un grand nombre de choses, comme les passions interdites, l'orgueil, et ce sont des extrêmes, mais la chair les aime. La chair veut se livrer aux deux. J'avais un ami que j'avais rencontré après ma conversion. Il était chrétien depuis plus longtemps que moi, et nous apprenions tous les deux à jouer de la guitare. Et donc, nous nous asseyions dans le jardin et nous jouions de la guitare pendant des heures. Et on chantait pour Jésus, et nous parlions des Écritures, nous prions ensemble, nous témoignons ensemble, nous parlions de l'Évangile aux gens ensemble. Un très bon ami. Puis, je suis parti en voyage. Il s'agissait d'un assez long voyage. Lorsque je suis revenu, il était introuvable. Il avait comme disparu. Et à cette époque, il n'y avait pas de téléphone portable. C'était 40 ans avant qu'il ne soit inventé. Je ne savais donc pas ce qu'il était devenu. Quelques mois après, j'étais un jour allé au marché et je l'ai croisé au marché. Et il était là, avec une femme très attirante. Je lui ai adressé la parole. Il ne s'est pas montré réceptif et est parti de son côté. J'ai trouvé cela étrange, mais c'était bien de le voir. Eh bien, environ une semaine plus tard, j'ai rencontré son frère aîné, qui était aussi un croyant. Et il m'a dit, « Bélès, tu as croisé mon frère au marché récemment. » J'ai dit, « Oui, je l'ai vu. » Il m'a dit, « Il a fait une crise après t'avoir vu au marché. » J'ai dit, « Que veux-tu dire ?» Il a dit, « Eh bien, il a réalisé quand il t'a parlé que tu étais toujours brûlant pour Dieu et que tu servais le Seigneur. Et il a réalisé à quel point il était tombé. » Il a en quelque sorte cédé à certaines choses et a commencé à boire à l'excès et à se droguer. Et il a aussi couché avec un tas de filles. En fait, celle avec qui tu l'as vue est la plus récente, avec qui il vit en ménage. Il croit toujours en Jésus, mais il vit comme un prisonnier de guerre. Son âme avait été capturée et il était rempli de haine de soi. Son témoignage était diminué, voire détruit. Et il était tellement empêtré dans le péché qu'il ne savait même pas s'il pouvait en être libéré. La chair est de nature antagonisante. En plus de se livrer à des passions interdites, elle aime le confort et la vaine gloire. Je pense que nous savons tous que la chair est comme un enfant gâté. Elle réclame à corps et à cri ce qu'elle veut. Et il est difficile de l'arrêter. La chair crie et crie et crie et n'est jamais satisfaite. Elle veut toujours se faire plaisir par des excès de table, par des dépenses excessives, par la boisson à l'excès, par du temps excessif devant la télévision, l'ordinateur ou votre téléphone. Vous devez vous lever dans 6 heures pour aller travailler. Un épisode de plus. Mais je dois me lever dans 6 heures. Allez, continue de faire défiler. Quelque chose de bien va apparaître. Continue de faire défiler. Une demi-heure plus tard, continue de faire défiler. Allez, juste un peu plus. Tu sais que quelque chose que tu aimes va arriver. Je dois me lever dans 4 heures. Allez, continue de faire défiler. Je pense que nous sommes tous familiers avec la façon dont notre chair fonctionne. Et le truc, c'est que si nous commençons à céder aux désirs de notre chair, si nous continuons, elle va capturer notre âme. Et cela concerne les passions interdites aussi bien que ce que nous avons cité. En fait, vous pouvez regarder dans Galates 5. Il y a une liste assez complète des œuvres de la chair. Vous seriez surpris par certaines choses qui y figurent. La chair réclame ces choses. Et le diable sait bien séduire notre chair, car il sait que ses désirs charnels veulent capturer notre âme, capturer notre volonté, capturer notre pensée. Et si vous cédez et vous faites prendre, vous irez probablement au paradis. Cependant, vous vivrez simplement comme un prisonnier de guerre pendant votre temps ici sur terre. Et votre témoignage pour le Christ sera rendu inefficace et peut-être même invalidé. Jésus a utilisé la métaphore. Il a dit, « Si ton œil est une occasion de chute, si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le au loin de toi, car il vaut mieux pour toi de prendre un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. » Et puis il a dit, « Si ta main te pousse à mal agir et à pécher, coupe-la, jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. » Et puis il a dit, « Si ton pied est une occasion de chute, coupe-le, jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi aller au ciel, aller dans l'éternité avec un seul pied, que d'en avoir deux pour aller en enfer. » Il est évident que ceci est une métaphore progressive. L'œil représente nos habitudes d'observation. Il représente nos pensées. Et c'est toujours là que cela commence. Et écoutez, si vous jouez avec une chose mauvaise, la convoitise charnelle, Jésus dit de l'arracher. Arrache-la, jette-la loin de toi. Il ne parle pas littéralement, mais métaphoriquement. Traitez-la sans pitié. Ne jouez pas avec cela. Soyez impitoyable. C'est le stade le plus facile pour agir, parce que si vous n'agissez pas au stade de l'œil, cela atteint la main. À ce niveau, je n'y pense pas simplement. Je tends la main pour participer. Et ce n'est peut-être qu'occasionnel. mais ma conduite est affectée. Vous voyez, mon âme a été capturée, et par conséquent, ma conduite ne peut plus être honorable. Et Jésus a dit, « Hé, il faut couper et traiter cela sans pitié si c'est le cas. Ne soyez pas négligent, sinon cela évoluera jusqu'au pied. » Et cela veut dire que c'est devenu habituel. C'est désormais une habitude, un mode de vie, une façon de vivre. Et oui, vous pouvez être libéré. Il a dit, traitez cela sans pitié, et vous pouvez être libéré. Mais c'est beaucoup plus difficile à ce niveau. Il faut à coup sûr la puissance du Saint-Esprit pour vous libérer à ce stade. Croyez en la puissance de délivrance du Saint-Esprit pour qu'il agisse dans votre vie. Lorsque vous avez affaire au péché et à la convoitise de la chair, c'est comme si vous mettiez un fil autour de vous. C'est facile de le rompre. Vous pouvez dire, je peux arrêter ou continuer, c'est vrai. Si vous le faites encore une fois ou deux fois, vous pouvez toujours le rompre facilement. Je peux arrêter ou continuer. Et vous continuez de le faire. Ça commence à se compliquer. Premièrement, je peux me libérer. Je peux arrêter ou continuer à quelques reprises. Je peux arrêter ou continuer. Mais si vous continuez, vous ne pouvez plus arrêter. Parce que vous serez coincé. Et quand vous arrivez à ce stade, vous devez le vouloir de toute votre âme pour être libre. Sachez que votre âme peut s'habituer à cet état de servitude charnelle. Votre âme peut s'habituer à vivre dans des chaînes. Elle ne peut pas vouloir se libérer de ce à quoi elle s'est habituée. Voilà pourquoi il a dit, je vous encourage. En tant qu'étrangers et citoyens temporaires, nous n'avons que peu de temps pour parler du Christ vivant à un monde mourant. Ne laissez pas votre témoignage être étouffé ou réduit au silence. Abstenez-vous donc des choses charnelles. Et la prochaine chose dont je veux vous parler est comme une pièce à deux faces, traitant chacune des perspectives différentes. Premièrement, en tant qu'étrangers sur la terre, il est important pour nous de réaliser que très bientôt, le chagrin sera englouti par la gloire. Très bientôt, le chagrin sera englouti par la gloire. Concernant la brièveté de notre temps ici sur terre, l'apôtre Paul a dit ceci à l'église de Corinthe dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17. Il a dit, « En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Nos légères difficultés ne durent qu'un moment, mais elles produisent pour nous un poids éternel de gloire. Considérez que l'apôtre Paul a été battu avec des bâtons. Il a été lapidé, il a été calomnié, il a fait naufrage, il a été emprisonné, il a été rejeté, il a été faussement accusé, il a été persécuté, poursuivi de ville en ville, et il a qualifié tout cela de légère affliction comparément à la gloire à venir. Mes amis, ce ne sera pas long. Nous serons assis au repas de noces de l'agneau. Nous verrons Jésus-Christ face à face. Chaque larme sera essuyée, remplacée par une joie indescriptible. Un poids éternel de gloire. Et la Bible traduit ce poids éternel de gloire comme une gloire au-delà de toute mesure, dépassant excessivement toutes les comparaisons et tous les calculs. Une gloire et une bénédiction vaste et transcendante qui ne cesseront jamais. Il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre, et nous en serons les habitants. Notre séjour sera terminé. Nous entrerons dans notre récompense. Je me souviens quand Janet était enceinte de notre premier enfant, Harrison. Nous avions suivi tous les cours. J'étais son coach dans le processus de naissance. Elle a perdu les os, nous nous sommes précipités à l'hôpital et nous avions prié que les choses se passent facilement. Et une heure de travail est devenue deux, quatre, huit pénibles heures de travail, devenues 12, 18 heures de travail pénible. Elle n'a pas pu dormir à cause des douleurs. Elle était en peine et j'essayais de la coacher. « Chérie, respire. Allez, allez, on va le faire. Le bébé va bientôt être là. » Et tout d'un coup, le docteur dit en pointant le moniteur fœtal, « Quelque chose ne va pas. Chaque fois qu'elle a une contraction, ce bébé est en détresse. Il y a un sérieux problème. Nous devons faire une césarienne d'urgence. » On a dit, « Docteur, vous êtes sûr ?» Il a dit, « Oui. » Nous devons le faire. Elle a donc eu une césarienne en urgence. Il s'est avéré que le cordon ombilical s'était enroulé autour de son cou. Et à chaque fois qu'elle avait une contraction, le bébé était étranglé. C'est pourquoi il était en détresse. Donc, voilà Janet, après 18 heures, épuisée, luttant, souffrant. Mais je n'oublierai jamais l'émerveillement qui était sur son visage quand elle a tenu Harrison pour la première fois. Toutes les difficultés étaient oubliées. Écoutez, j'ai fait de mon mieux pour la coacher, j'y ai mis de l'effort. Bientôt, très bientôt, nous allons entrer dans la gloire. Votre lutte ne durera pas éternellement. En fait, quelles que soient vos peines, quand vous entrerez dans le monde à venir, tout ce que vous aurez traversé maintenant deviendra pour vous une légère affliction. Et je sais que certains pourraient penser que j'essaie de minimiser leur douleur et leur souffrance. Non, ce n'est pas le cas. Je ne fais que magnifier la gloire à venir. L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, le cœur n'a pas perçu les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Je pense souvent à cela. Le cœur de l'homme n'a pas perçu les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Je comparerai mon imagination à celle de n'importe qui d'entre vous. J'ai une imagination très développée, très colorée et parfois même étrange pour un être humain. Je me fais des idées sur les choses à venir, je vous assure, c'est fou, inhabituel, excentrique. Et Dieu dit, non, ce n'est même pas proche ou approximatif. Bélès, eh bien, alors je pense, plus grand, plus, c'est du genre, tu n'en as aucune idée. Aucune idée. Vous traversez peut-être des moments difficiles en ce moment. Vous avez peut-être l'impression que c'est l'enfer sur terre pour vous, mais mon ami, cette douleur, ce chagrin seront bientôt engloutis dans la gloire. Maintenant, voici l'autre côté de cette pièce. 1. Très bientôt, le chagrin sera avalé par la gloire. Deuxièmement, puisque nous sommes des résidents temporaires, je pense qu'il est important que nous vivions pleinement notre vie. Nous devrions vivre pleinement notre vie. Oui, un nouveau monde arrive. Mais je ne vais pas me retirer dans une sorte d'hibernation émotionnelle pour attendre ce qui est à venir. Je pense que nous devrions saisir tout ce qui nous est offert chaque jour. Et nous pouvons le faire en servant Dieu dans l'avancement de son royaume. Il ne veut pas et n'a jamais voulu que ses enfants soient grincheux, mécontents, des gens malheureux, qui vivent des vies réduites, repliées sur eux-mêmes. Ce n'est pas le plan de Dieu pour ses enfants. Écoutez les paroles de Salomon, Ecclésiaste chapitre 3, verset 12. « J'ai reconnu que leur bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie. Et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. 1 Timothée chapitre 6, verset 17 dit que Dieu nous donne tout en abondance pour que nous en jouissions. Et le fait que, même si nous sommes des étrangers et des résidents temporaires, nous n'avons pas à être maussades et déprimés. Vous pouvez profiter du voyage si vous le voulez. Notre séjour ici n'a jamais été censé être une torture. Oui, nous avons des épreuves, mais il est avec nous dans ces épreuves. Jésus a dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Je me demande ce que nos collègues au travail, les membres de nos familles, les gens avec qui nous interagissons, pensent par rapport au royaume lorsqu'ils voient l'expression de notre visage. Si l'Église vous rend aussi aigri, comme si vous dormiez tous les jours dans du vinaigre, je ne veux rien avoir à faire avec cela. Par contre, ils peuvent voir quelque chose en vous et dire, « Je ne comprends pas. Je sais qu'ils ont des difficultés comme moi, mais il y a une lumière sur leur visage. Il y a quelque chose de différent chez eux. Il y a quelque chose de bon en eux. Ils ont quelque chose que je n'ai pas et que je veux avoir. » Mes amis, pour ma part, en tant que résident temporaire et étranger, en tant que disciple de Jésus, je prévois d'aimer ma famille, d'être fidèle à mes amis, de faire tout ce que je peux pour inspirer et influencer les gens pour le royaume. J'ai l'intention de travailler dur, je veux rire fort, je veux bien aimer, je veux jouer à fond, je veux vivre proprement, je veux être courageux, je veux vivre fidèlement. Je suis un résident temporaire. Je veux pardonner tout le temps. Je veux être gentil. Je veux être transparent. Je veux prendre des risques et je veux énormément croire. Je suis un résident temporaire. Je veux vivre pleinement. Je veux pleurer librement. Je veux chanter fort, écouter davantage, tenir ma parole et garder mon calme. Car je suis un résident temporaire et je veux vivre généreusement. En mettant le royaume de Dieu en premier, car je ne suis pas le propriétaire, je ne suis qu'un intendant des choses que je possède dans ce monde. Juste ici pour un petit moment, ce qui nous amène à notre troisième et dernier point. Étant donné que nous sommes des résidents temporaires et que nous ne faisons que passer, nous devons vivre généreusement. David a reçu des plans du Saint-Esprit pour construire une maison pour Dieu. Mais Dieu a dit à David, « Ce n'est pas toi qui vas la construire, c'est ton fils, Salomon va la construire. Tu n'as qu'à rassembler des choses et te préparer. » Et donc, nous lisons dans 1 Chronique, chapitre 29. En fait, avant que je lise ça, laissez-moi lire ce que David a dit avant cela. C'est dans le psaume 39, verset 4. Psaume 39, verset 4. Écoutez sa perspective. Il dit, « Éternel, donne-moi à connaître ma fin, et quelle est la mesure de mes jours. Fais que je sache de combien petite durée je suis. Voilà, tu as réduit mes jours à la mesure de 4 doigts, et le temps de ma vie est devant toi comme un rien. Certainement, ce n'est que pure vanité de tout homme, quoi qu'il soit debout, c'est là. Certainement, l'homme se promène parmi ce qui n'a que de l'apparence. Certainement, on s'agite inutilement, on amasse des biens et on ne sait point qui les recueillera. » Intéressant. Il y a quelque temps, je me souviens avoir appris le décès d'un des hommes les plus riches du monde. Et il y avait un buzz sur la fortune qu'il avait laissée. Je peux vous dire avec certitude qu'il avait tout laissé à sa mort. Il n'avait rien pris avec lui. Il avait tout laissé. Et donc, David, qui a dit ces mots, en fait, c'est Timothée qui l'a dit. Ou Paul l'a dit à Timothée, « En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. » Voici, David avait fait toutes les provisions pour la maison de Dieu qui allait être construite. Et il a dit ceci, 1 Chronique, chapitre 29, verset 3. David dit, « De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, en plus de tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Or, il avait donné des trésors nationaux. Le gouvernement d'Israël avait donné pour la maison de Dieu. Et David a dit, « Je donne ce qui m'appartient en plus de cela. » Et les leaders ont été tellement inspirés qu'ils ont donné de manière extravagante. Et puis, tout le monde a suivi, et ils ont donné de manière extravagante et avec joie. Et David les regarde, donner de bon cœur et avec joie. Et voici ce qu'il dit. Il commence à prier. Et voici sa prière. Verset 14, il dit, « Qui suis-je en effet ? Et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire ces offrandes volontaires ? Oui, tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des immigrés. Comme tous nos ancêtres, nos jours sur la terre disparaissent comme l'ombre sans espoir. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour construire une maison en ton honneur, en l'honneur de ton saint nom. Et c'est à toi que tout appartient. Je sais, mon Dieu, que tu es capable de mettre le cœur à l'épreuve et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires avec un cœur droit. Et je vois maintenant avec joie ton peuple ici présent agir de la même manière. Écoutez ceci, Éternel, Dieu de nos ancêtres, Abraham, Isaac et Israël, garde à toujours ses intentions dans le cœur de ton peuple et affermis son cœur pour qu'il reste tourné vers toi. Garde à jamais dans les pensées et le cœur de ton peuple ces choses et dirige les cœurs vers toi. Quelle chose ! David prie pour nous et pour le peuple de Dieu dans chaque génération, pour toujours, et garde ces choses dans leur cœur et leur esprit. Premièrement, nous sommes des résidents temporaires. Dieu garde dans leur cœur et leurs esprits qu'ils ne font que passer. Ce monde n'est pas leur maison. Et qu'en fin de compte, nous ne sommes que les intendants des choses qui appartiennent à Dieu. Et pour cette raison, nous devrions vivre avec des cœurs et des mains ouverts envers la maison de Dieu et son royaume. On a une fois demandé à un homme, « Comment se fait-il que vous puissiez donner si souvent et si beaucoup ?» malgré vos revenus limités? Sa réponse était la suivante. Eh bien, lorsque je prends ce que j'ai par obéissance à Dieu, il me renvoie des bénédictions. Il donne plus abondamment que moi. En vérité, l'appel de Dieu est bien plus grand que la nôtre. Les Écritures disent « Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure tassée, secouée et qui déborde. Dieu fera en sorte que les gens nous donnent en retour ce que nous lui avons donné par obéissance. Je donne de la miséricorde, je donne de la bonté, je donne de l'amour, je donne le pardon. Je donne de mes ressources matérielles afin d'apporter un Jésus vivant à un monde mourant. Dieu me renverra l'amour, la miséricorde, la bénédiction, la bonté et les ressources matérielles. En vérité, nous ne pouvons pas donner à l'excès à Dieu. Le paradis est trop réel, l'enfer est trop chaud, l'éternité est trop longue et le temps est trop court pour que nous ne soyons pas généreux et impliqués dans l'apport de l'Évangile à un monde mourant. Mes amis, ce n'est pas une coïncidence si vous me regardez en ce moment. Dieu vous voit, il vous connaît et il vous aime et il veut que vous soyez à lui.
Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier? Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.